Denis Diderot, Pensées sur l'interprétation de la nature. 44. Les expériences doivent être répétées pour le détail des circonstances et pour la connaissance des limites. Il faut les transporter à des objets différents, les compliquer, les combiner de toutes les manières possibles. Tant que les expériences sont éparses, isolées, sans liaison, irréductibles, il est démontré par l'irréduction même qu'il en reste encore à faire. Alors, il faut s'attacher uniquement à son objet et le tourmenter, pour ainsi dire, jusqu'à ce qu'on ait tellement enchaîné les phénomènes qu'un d'eux étant donné, tous les autres le soient. Travaillons d'abord à la réduction des effets. Nous songerons après, à la réduction des causes. Or, les effets ne se réduiront jamais qu'à force de les multiplier. Le grand art dans les moyens qu'on emploie pour exprimer d'une cause tout ce qu'elle peut donner, c'est de bien discerner ceux dont on est en droit d'attendre un phénomène nouveau de ceux qui ne produiront qu'un phénomène travesti. S'occuper sans fin de ces métamorphoses, c'est se fatiguer beaucoup et ne point avancer. Toute expérience qui n'étend pas la loi à quelque cas nouveau ou qui ne la restreint pas par quelque exception ne signifie rien. Le moyen le plus court de connaître la valeur de son essai, c'est d'en faire l'antécédent d'un antimème et d'examiner le conséquent. La conséquence est-elle exactement la même que celle que l'on a déjà tiré d'un autre essai? On n'a rien découvert, on a tout au plus confirmé une découverte. Il y a peu de gros livres de physique expérimentale que cette règle si simple ne réduisit à un petit nombre de pages, et il est un grand nombre de petits livres qu'elle réduirait à rien. 45. De même qu'en mathématiques, en examinant toutes les propriétés d'une courbe, on trouve que ce n'est que la même propriété présentée sous des faces différentes. Dans la nature, on reconnaîtra, lorsque la physique expérimentale sera plus avancée, que tous les phénomènes, ou de la pesanteur, ou de l'élasticité, ou de l'attraction, ou du magnétisme, ou de l'électricité, ne sont que des faces différentes de la même affection. Mais entre les phénomènes connus que l'on rapporte à l'une de ces causes, combien y a-t-il de phénomènes intermédiaires à trouver pour former les liaisons, remplir les vides et démontrer l'identité? C'est ce qui ne peut se déterminer. Il y a peut-être un phénomène central qui jetterait des rayons non seulement à ce qu'on a, mais encore à tous ceux que le temps ferait découvrir, qui les unirait et qui en formerait un système. Mais, au défaut de ce centre de correspondance commune, il demeure isolé. Toutes les découvertes de la physique expérimentale ne feront que les rapprocher en s'interposant, sans jamais les réunir. Et quand elles parviendraient à les réunir, elles en formeraient un cercle continu de phénomènes où l'on ne pourrait discerner quel serait le premier et quel serait le dernier. Ce cas singulier où la physique expérimentale, à force de travail, aurait formé un labyrinthe dans lequel la physique rationnelle, égarée et perdue, tournerait sans cesse, n'est pas impossible dans la nature comme il l'est en mathématiques. On trouve toujours en mathématiques, ou par la synthèse ou par l'analyse, les propositions intermédiaires qui séparent la propriété fondamentale d'une courbe de sa propriété la plus éloignée. 46. Il y a des phénomènes trompeurs qui semblent, au premier coup d'œil, renverser un système, et qui, mieux connus, achèveraient de le confirmer. Ces phénomènes deviennent le supplice du philosophe, surtout lorsqu'il a le pressentiment que la nature lui en impose et qu'elle se dérobe à ses conjectures par quelques mécanismes extraordinaires et secrets. Ce cas embarrassant aura lieu toutes les fois qu'un phénomène sera le résultat de plusieurs causes conspirantes ou opposées. Si elles conspirent, on trouvera la quantité du phénomène trop grande pour l'hypothèse qu'on aura faite. Si elles sont opposées, cette quantité sera trop petite. Quelquefois même, elle deviendra nulle et le phénomène disparaîtra sans qu'on sache à quoi attribuer ce silence capricieux de la nature. Vient-on à en soupçonner la raison? On n'en est guère plus avancé. Il faut travailler à la séparation des causes, décomposer le résultat de leurs actions et réduire un phénomène très compliqué à un phénomène simple, ou du moins manifester la complication des causes, leur concours ou leur opposition, par quelque expérience nouvelle. Opération souvent délicate, quelquefois impossible. Alors, le système chancelle. Les philosophes se partagent. Les uns lui demeurent attachés, les autres sont entraînés par l'expérience qui paraît le contredire, et l'on dispute jusqu'à ce que la sagacité ou le hasard, qui ne se repose jamais, plus fécond que la sagacité, lève la contradiction et remette en honneur des idées qu'on avait presque abandonnées. 47. Il faut laisser l'expérience à sa liberté. C'est la tenir captive que de n'en montrer que le côté qui prouve et que d'en voiler le côté qui contredit. C'est l'inconvénient qu'il y a, non pas à avoir des idées, mais à s'en laisser aveugler lorsqu'on tente une expérience. On est sévère dans son examen que quand le résultat est contraire au système. Alors, on n'oublie rien de ce qui peut faire changer de face au phénomène ou de langage à la nature. Dans le cas opposé, l'observateur est indulgent. Il glisse sur les circonstances, il ne songe guère à proposer des objections à la nature, il l'en croit sur son premier mot. Il n'y soupçonne point d'équivoque et il mériterait qu'on lui dise « Ton métier est d'interroger la nature et tu l'as fait mentir ». Ou tu crains de la faire expliquer. 48. Quand on suit une mauvaise route, plus on marche vite, plus on s'égare. Et le moyen de revenir sur ses pas quand on a parcouru un espace immense, l'épuisement des forces ne le permet pas. La vanité s'y oppose sans qu'on s'en aperçoive. L'entêtement des principes répand sur tout ce qui environne un prestige qui défigure les objets. On ne les voit plus comme ils sont, mais comme il conviendrait qu'ils fussent. Au lieu de réformer ces notions sur les êtres, il semble qu'on prenne à tâche de modeler les êtres sur ces notions. Entre tous les philosophes, il n'y en a point en qui cette fureur domine plus évidemment que dans les méthodistes. Aussitôt qu'un méthodiste a mis dans son système l'homme à la tête des quadrupèdes. Il ne l'aperçoit plus dans la nature que comme un animal à quatre pieds. C'est en vain que la raison sublime dont il est doué se récrie contre la dénomination d'animal et que son organisation contredit celle de quadrupède. C'est en vain que la nature a tourné ses regards vers le ciel. La prévention systématique lui courbe le corps vers la terre. La raison n'est, suivant elle, qu'un instinct plus parfait. Elle croit sérieusement que ce n'est que par défaut d'habitude que l'homme perd l'usage de ses jambes quand il s'avise de transformer ses mains en deux pieds. 49. Mais c'est une chose trop singulière que la dialectique de quelques méthodistes pour n'en pas donner un échantillon. L'homme, dit Linnaeus, n'est ni une pierre ni une plante, c'est donc un animal. Il n'a pas un seul pied, ce n'est donc pas un ver. Ce n'est pas un insecte, puisqu'il n'a pas d'antenne. Il n'a point de nageoire, ce n'est donc pas un poisson. Ce n'est pas un oiseau, puisqu'il n'a point de plume. Qu'est-ce donc que l'homme? Il a la bouche du quadrupède, Il a quatre pieds, les deux de devant lui servent à l'attouchement, les deux de derrière au marché. C'est donc un quadrupède. Il est vrai, continue le méthodiste, qu'en conséquence de mes principes d'histoire naturelle, je n'ai jamais su distinguer l'homme du singe, car il y a certains singes qui ont moins de poils que certains hommes. Ces singes marchent sur deux pieds, et ils se servent de leurs pieds et de leurs mains comme les hommes. D'ailleurs, la parole n'est point pour moi un caractère distinctif. J'admets, selon ma méthode, que des caractères qui dépendent du nombre, de la figure, de la proportion et de la situation. Donc, votre méthode est mauvaise, dit la logique. Donc, l'homme est un animal à quatre pieds, dit le naturaliste. 50. Pour ébranler une hypothèse, il ne faut quelquefois que la pousser aussi loin qu'elle peut aller. Nous allons faire l'essai de ce moyen sur celle du docteur d'Erlangen, dont l'ouvrage, rempli d'idées singulières et neuves, donnera bien de la torture à nos philosophes. Son objet est le plus grand que l'intelligence humaine puisse se proposer. C'est le système universel de la nature. L'auteur commence par exposer rapidement les sentiments de ceux qui l'ont précédé et l'insuffisance de leurs principes pour le développement général des phénomènes. Les uns n'ont demandé que l'étendue et le mouvement. D'autres ont cru devoir ajouter à l'étendue l'impénétrabilité, la mobilité et l'inertie. L'observation des corps célestes, ou plus généralement la physique des grands corps, a démontré la nécessité d'une force par laquelle toutes les parties tendissent ou pesassent les unes vers les autres selon une certaine loi. Et l'on a admis l'attraction en raison simple de la masse et en raison réciproque du carré de la distance. Les opérations les plus simples de la chimie ou la physique élémentaire des petits corps à faire recourir à des attractions qui suivent d'autres lois. Et l'impossibilité d'expliquer la formation d'une plante ou d'un animal avec les attractions, l'inertie, la mobilité, l'impénétrabilité, le mouvement, la matière ou l'étendue, a conduit le philosophe Bauman à supposer encore d'autres propriétés dans la nature. Mécontent des natures plastiques à qui l'on fait exécuter toutes les merveilles de la nature sans matière et sans intelligence, des substances intelligentes subalternes qui agissent sur la matière d'une manière inintelligible, de la simultanéité de la création et de la formation des substances qui, contenues les unes dans les autres, se développent dans le temps par la continuation d'un premier miracle, et de l'extra-temporanéité de leur production, qui n'est qu'un enchaînement de miracles réitérés à chaque instant de la durée, il a pensé que tous ces systèmes peu philosophiques n'auraient point eu lieu sans la crainte mal fondée d'attribuer des modifications très connues à un être dont les sens nous étant inconnus, peut-être par cette raison même, et malgré notre préjugé, très compatible avec ces modifications. Mais quel est cet être? Quelles sont ces modifications? Le dirais-je? Sans doute, répond le docteur Bauman. L'être corporel est cet être. Ces modifications sont le désir, l'aversion, la mémoire et l'intelligence. En un mot, toutes les qualités que nous reconnaissons dans les animaux, que les anciens comprenaient sous le nom d'âme sensitive et que le docteur Bauman admet, proportion gardée des formes et des masses, dans la particule la plus petite de matière comme dans le plus gros animal. S'il y avait, dit-il, du péril à accorder aux molécules de la matière quelques degrés d'intelligence, ce péril serait aussi grand à les supposer dans un éléphant ou dans un singe qu'aller reconnaître dans un grain de sable. Ici, le philosophe de l'Académie d'Erlangen emploie les derniers efforts pour écarter de lui tout soupçon d'athéisme. Et il est évident qu'il ne soutient son hypothèse avec quelque chaleur que parce qu'elle lui paraît satisfaire aux phénomènes les plus difficiles, sans que le matérialisme en soit une conséquence. Il faut lire son ouvrage pour apprendre à concilier les idées philosophiques les plus hardies avec le plus profond respect pour la religion. « Dieu a créé le monde », dit le docteur Bauman, « et c'est à nous à trouver, s'il est possible, les lois par lesquelles il a voulu qu'il se conservât et les moyens qu'il a destinés à la reproduction des individus. Nous avons le champ libre de ce côté. Nous pouvons proposer nos idées. Et voici les principales idées du docteur. L'élément séminal, exilé d'une partie semblable à celle qu'il doit former dans l'animal, sentant et pensant, aura quelques mémoires de sa situation première. De là, la conservation des espèces et la ressemblance des parents. Il peut arriver que le fluide séminal surabonde ou manque de certains éléments, que ces éléments ne puissent s'unir par oubli, ou qu'ils se lassent des réunions bizarres d'éléments surnuméraires. De là, ou l'impossibilité de la génération, ou toutes les générations monstrueuses possibles. Certains éléments auront pris nécessairement une facilité prodigieuse à s'unir constamment de la même manière. De là, s'ils sont différents, une formation d'animaux microscopiques variés à l'infini. De là, s'ils sont semblables, les polypes, qu'on peut comparer à une grappe d'abeilles infiniment petite, qui, n'ayant les mémoires vives que d'une seule situation, s'accrocheraient et demeureraient accrochés selon cette situation qui leur serait la plus familière. Quand l'impression d'une situation présente balancera ou éteindra la mémoire d'une situation passée, en sorte qu'il y ait indifférence à toute situation, il y aura stérilité. De là, la stérilité des mulets. Qui empêchera les parties élémentaires, intelligentes et sensibles, de s'écarter à l'infini de l'ordre qui constitue l'espèce? De là, une infinité d'espèces d'animaux sorties d'un premier animal, une infinité d'êtres émanés d'un premier être, un seul acte dans la nature. Mais chaque élément perdra-t-il, en s'accumulant et en se combinant, son petit degré de sentiment et de perception? Nullement, dit le docteur Bauman. Ses qualités lui sont essentielles. Qu'arrivera-t-il donc? Le voici. De ces perceptions d'éléments rassemblés et combinés, il résultera une perception unique, proportionnée à la masse et à la disposition. Et ce système de perception, dans lequel chaque élément aura perdu la mémoire du soi et concourra à former la conscience du tout, sera l'âme de l'animal. Je lui demanderai donc si l'univers, ou la collection générale de toutes les molécules sensibles et pensantes, forme un tout ou non. S'il me répond qu'elle ne forme point un tout, il ébranlera d'un seul mot l'existence de Dieu en introduisant le désordre dans la nature. Et il détruira la base de la philosophie en rompant la chaîne qui lie tous les êtres. S'il convient que c'est un tout où les éléments ne sont pas moins ordonnés que les portions, ou réellement distinctes, ou seulement intelligibles, le son dans un élément et les éléments dans un animal, il faudra qu'il avoue qu'en conséquence de cette copulation universelle, le monde, semblable à un grand animal, a une âme. Que le monde, pouvant être infini, cette âme du monde, je ne dis pas est, mais peut être un système infini de perception, et que le monde peut être Dieu. Qu'il proteste tant qu'il voudra contre ses conséquences, elles n'en seront pas moins vraies. Et quelque lumière que ces sublimes idées puissent jeter dans les profondeurs de la nature, ces idées n'en seront pas moins effrayantes. Il ne s'agissait que de les généraliser pour s'en apercevoir. L'acte de la généralisation est, pour les hypothèses du métaphysicien, ce que les observations et les expériences réitérées sont pour les conjectures du physicien. Les conjectures sont-elles justes? Plus on fait d'expériences, plus les conjectures se vérifient. Les hypothèses sont-elles vraies? Plus on étend les conséquences, plus elles embrassent de vérité, plus elles acquièrent d'évidence et de force. Au contraire, si les conjectures et les hypothèses sont frêles et mal fondées, où l'on découvre un fait, où l'on aboutit à une vérité contre laquelle elles échouent. L'hypothèse du docteur Baumann développera, si l'on veut, le mystère le plus incompréhensible de la nature, la formation des animaux, ou plus généralement, celle de tous les corps organisés, la collection universelle des phénomènes et l'existence de Dieu seront ses écueils. Mais, quoique nous rejetions les idées du docteur d'Erlangen, nous aurions bien mal conçu l'obscurité des phénomènes qu'il s'était proposé d'expliquer, la fécondité de son hypothèse, les conséquences surprenantes qu'on en peut tirer, le mérite des conjectures nouvelles sur un sujet dont se sont occupés les premiers hommes dans tous les siècles, et la difficulté de combattre les siennes avec succès, si nous ne les regardions comme le fruit d'une méditation profonde, une entreprise hardie sur le système universel de la nature et la tentative d'un grand philosophe. 51. De l'impulsion d'une sensation. Si le docteur Baumann eût renfermé son système dans de justes bornes et n'eût appliqué ses idées qu'à la formation des animaux, sans les étendre à la nature de l'âme, d'où je crois avoir démontré contre lui qu'on pouvait les porter jusqu'à l'existence de Dieu, il ne se serait point précipité dans l'espèce de matérialisme la plus séduisante, en attribuant aux molécules organiques le désir, l'aversion, le sentiment et la pensée. Il fallait se contenter de supposer une sensibilité mille fois moindre que celle que le Tout-Puissant a accordée aux animaux les plus voisins de la matière morte. En conséquence de cette sensibilité sourde et de la différence des configurations, il n'y aurait eu pour une molécule organique quelconque qu'une situation la plus commode de toutes qu'elle aurait sans cesse cherchée par une inquiétude automate comme il arrive aux animaux de s'agiter dans le sommeil, lorsque l'usage de presque toutes leurs facultés est suspendu, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la disposition la plus convenable au repos. Ce seul principe eût satisfait d'une manière assez simple et sans aucune conséquence dangereuse aux phénomènes qu'il se proposait d'expliquer et à ces merveilles sans nombre qui tiennent si stupéfaits tous nos observateurs d'insectes. Et il eût défini l'animal en général un système de différentes molécules organiques qui, par l'impulsion d'une sensation semblable et un toucher obtus et sourd que celui qui a créé la matière en général leur a donné, se sont combinées jusqu'à ce que chacune ait rencontré la place la plus convenable à sa figure et à son repos. 52. Des instruments et des mesures. Nous avons observé ailleurs que, puisque les sciences étaient la source de toutes nos connaissances, il importait beaucoup de savoir jusqu'où nous pouvions compter sur leurs témoignages. Ajoutons ici que l'examen des suppléments de nos sens ou des instruments n'est pas moins nécessaire. Nouvelle application de l'expérience autre source d'observations longues, pénibles et difficiles. Il y aurait un moyen d'abréger le travail. Ce serait de fermer l'oreille à une sorte de scrupule de la philosophie rationnelle, car la philosophie rationnelle a ses scrupules, et de bien connaître dans toutes les quantités jusqu'où la précision des mesures est nécessaire. Combien d'industrie, de travail et de temps perdu à mesurer qu'on eût bien employé à découvrir. 53. Il est, soit dans l'invention, soit dans la perfection des instruments, une circonspection qu'on ne peut trop recommander aux physiciens. C'est de se méfier des analogies, de ne jamais conclure ni du plus au moins, ni du moins au plus. De porter son examen sur toutes les qualités physiques des substances qu'il emploie. Il ne réussira jamais s'il se néglige là-dessus. Et quand il aura bien pris toutes ces mesures, combien de fois n'arrivera-t-il pas encore qu'un petit obstacle qu'il n'aura point prévu ou qu'il aura méprisé sera la limite de la nature et le forcera d'abandonner son ouvrage lorsqu'il le croyait achevé. 54. De la distinction des objets. Puisque l'esprit ne peut tout comprendre, l'imagination tout prévoir, le sens tout observer et la mémoire tout retenir. Puisque les grands hommes naissent à des intervalles de temps si éloignés et que les progrès des sciences sont tellement suspendus par les révolutions que des siècles d'études se passent à recouvrer les connaissances des siècles écoulés, c'est manquer au genre humain que de tout observer indistinctement. Les hommes extraordinaires, par leur talent, se doivent respecter eux-mêmes et la postérité dans l'emploi de leur temps. Que penserait-elle de nous si nous n'avions à lui transmettre qu'une insectologie complète, une histoire immense d'animaux microscopiques. Au grand génie, les grands objets, les petits objets, au petit génie. Il vaut autant que ceux-ci s'en occupent peu que de ne rien faire. 55. Des obstacles. Et, puisqu'il ne suffit pas de vouloir une chose, qu'il faut en même temps acquiescer à tout ce qui est presque inséparablement attaché à la chose qu'on veut, celui qui aura résolu de s'appliquer à l'étude de la philosophie s'attendra non seulement aux obstacles physiques qui sont de la nature de son objet, mais encore à la multitude des obstacles moraux qui doivent se présenter à lui comme ils se sont offerts à tous les philosophes qui l'ont précédé. Lors donc, il lui arrivera d'être traversé, malentendu, calomnié, compromis, déchiré, qu'il sache se dire à lui-même « N'est-ce que dans mon siècle, n'est-ce que pour moi qu'il y a eu des hommes remplis d'ignorance et de fiel, des âmes rongées par l'envie, des têtes troublées par la superstition ? S'il croit quelquefois avoir à se plaindre de ses concitoyens, qu'il sache se parler ainsi. Je me plains de mes concitoyens, mais s'il était possible de les interroger tous et de demander à chacun d'eux lequel il voudrait être de l'auteur des Nouvelles Ecclésiastiques ou de Montesquieu, de l'auteur des Lettres américaines ou de Buffon. En est-il un seul qui eût un peu de discernement et qui put balancer sur le choix. Je suis donc certain d'obtenir, un jour, les seuls applaudissements dont je fasse quelque cas, si j'ai été assez heureux pour les mériter. Et vous, qui prenez le titre de philosophe ou de beaux esprits, et qui ne rougissez point de ressembler à ces insectes importuns qui passent les instants de leur existence éphémère à troubler l'homme dans ses travaux et dans son repos. Quel est votre but? Qu'espérez-vous de votre acharnement? Quand vous aurez découragé ce qui reste à la nation d'auteurs célèbres et d'excellents génies, Que ferez-vous en revanche pour elle? Quelles sont les productions merveilleuses par lesquelles vous dédommagerez le genre humain de celles qu'il en aurait obtenues? Malgré vous, les noms des Duclos, des D'Alembert et des Rousseau, des de Voltaire, des Maupertuis et des Montesquieu, des de Buffon et des Daubenton seront en honneur parmi nous et chez nos neveux. Et si quelqu'un se souvient un jour des vôtres, ils ont été, dira-t-il, les précurseurs des premiers hommes de leur temps. Et si nous possédons la préface de l'encyclopédie, l'histoire du siècle de Louis XIV, l'esprit des lois et l'histoire de la nature, c'est qu'heureusement, il n'était pas au pouvoir de ces gens-là de nous en priver. 56. Des causes. 1. À ne consulter que les vaines conjectures de la philosophie et la faible lumière de notre raison, on croirait que la chaîne des causes n'a point eu de commencement et que celle des effets n'aura point de fin. Supposez une molécule déplacée. Elle ne s'est point déplacée d'elle-même. La cause de son déplacement a une autre cause, celle-ci une autre, et ainsi de suite, sans qu'on puisse trouver de limite naturelle aux causes dans la durée qui a précédé. Supposez une molécule déplacée. Ce déplacement aura un effet, cet effet un autre effet, et ainsi de suite, sans qu'on puisse trouver de limite naturelle aux effets, dans la durée qui suivra. L'esprit épouvanté de ces progrès à l'infini des causes les plus faibles et des effets les plus légers ne se refuse à cette supposition et à quelques autres de la même espèce que par le préjugé qu'il ne se passe rien au-delà de la portée de nos sens et que tout cesse où nous ne voyons plus. Mais une des principales différences de l'observateur de la nature et de son interprète, c'est que celui-ci part du point où les sens et les instruments abandonnent l'autre. Il conjecture par ce qui est, ce qui doit être encore. Il tire de l'ordre des choses des conclusions abstraites et générales qui ont pour lui toute l'évidence des vérités sensibles et particulières. Il s'élève à l'essence même de l'ordre. Il voit que la coexistence pure et simple d'un être sensible et pensant avec un enchaînement quelconque de causes et d'effets ne lui suffit pas pour emporter un jugement absolu. Il s'arrête là. S'il faisait un pas de plus, il sortirait de la nature. Des causes finales. 2. Qui sommes-nous pour expliquer les fins de la nature? Ne nous apercevrons-nous point que c'est presque toujours aux dépens de sa puissance que nous préconisons sa sagesse, et que nous ôtons à ses ressources plus que nous ne pouvons jamais accorder à ses vues? Cette manière de l'interpréter est mauvaise, même en théologie naturelle. C'est substituer la conjecture de l'homme à l'ouvrage de Dieu. C'est attacher la plus importante des vérités théologiques au sort d'une hypothèse. Mais le phénomène le plus commun suffira pour montrer combien la recherche de ces causes est contraire à la véritable science. Je suppose qu'un physicien, interrogé sur la nature du lait, réponde que c'est un aliment qui commence à se préparer dans la femelle quand elle a conçu et que la nature destine à la nourriture de l'animal qui doit naître. Que cette définition m'apprendra-t-elle sur la formation du lait? Que puis-je penser de la destination prétendue de ce fluide et des autres idées physiologiques qui l'accompagnent, lorsque je sais qu'il y a eu des hommes qui ont fait jaillir le lait de leurs mamelles, que l'anastomose des artères épigastrices et mammaires me démontre que c'est le lait qui cause le gonflement de la gorge, dont les filles même sont quelquefois incommodées à l'approche de l'évacuation périodique, qu'il n'y a presque aucune fille qui ne devint nourrice si elle se faisait téter, et que j'ai sous les yeux une femelle d'une espèce si petite qu'il ne s'est point trouvé de mâle qui lui convainc, qui n'a point été couverte, qui n'a jamais porté, et dont les têtes se sont gonflées de lait au point qu'il a fallu recourir aux moyens ordinaires pour la soulager. Combien n'est-il pas ridicule d'entendre des anatomistes attribuer sérieusement à la pudeur de la nature une ombre qu'elle a également répandue sur des endroits de notre corps où il n'y a rien de déshonnête à couvrir. L'usage que lui supposent d'autres anatomistes fait un peu moins d'honneur à la pudeur de la nature, mais n'en fait pas davantage à leur sagacité. Le physicien, dont la profession est d'instruire et non d'édifier, abandonnera donc le « pourquoi » et ne s'occupera que du « comment ». Le « comment » se tire des êtres, le « pourquoi » de notre entendement. Il tient à nos systèmes, il dépend du progrès de nos connaissances. Combien d'idées absurdes, de suppositions fausses, de notions chimériques, dans ces hymnes que quelques défenseurs téméraires des causes finales ont osé composer à l'honneur du Créateur. Au lieu de partager les transports de l'admiration du prophète et de s'écrier pendant la nuit à la vue des étoiles sans nombre dont les yeux sont éclairés, ils se sont abandonnés à la superstition de leurs conjectures. Au lieu d'adorer le Tout-Puissant dans les êtres mêmes de la nature, ils se sont prosternés devant les fantômes de leur imagination. Si quelqu'un, retenu par le préjugé, doute de la solidité de mon reproche, je l'invite à comparer le traité que Galien a écrit de l'usage des parties du corps humain avec la physiologie de Boerhaave, et la physiologie de Boerhaave avec celle de Haller. J'invite la postérité à comparer ce que ce dernier ouvrage contient de vues systématiques et passagères avec ce que la physiologie deviendra dans les siècles suivants. L'homme fait un mérite à l'Éternel de ses petites vues. Et l'Éternel, qui l'entend du haut de son trône et qui connaît son intention, accepte sa louange imbécile et sourit de sa vanité. 57. De quelques préjugés. Il n'y a rien, ni dans les faits de la nature, ni dans les circonstances de la vie, qu'il ne soit un piège tendu à notre précipitation. J'en atteste la plupart de ces axiomes généraux qu'on regarde comme le bon sens des nations. On dit « il ne se passe rien de nouveau sous le ciel ». Et cela est vrai pour celui qui s'en tient aux apparences grossières. Mais qu'est-ce que cette sentence pour le philosophe, dont l'occupation journalière et de saisir les différences les plus insensibles. Qu'en devait penser celui qui assura que sur tout un arbre, il n'y aurait pas deux feuilles sensiblement du même vert? Qu'en penserait celui qui, réfléchissant sur le grand nombre des causes même connues, qui doivent concourir à la production d'une nuance de couleur précisément telle, prétendrait, sans croire outrer l'opinion, de Leibniz, qu'il est démontré, par la différence du point de l'espace où les corps sont placés, combiné avec ce nombre prodigieux de causes, qu'il n'y a peut-être jamais eu, et qu'il n'y aura peut-être jamais dans la nature, deux brins d'herbe absolument du même vert. Si les êtres s'altèrent successivement, en passant par les nuances les plus imperceptibles, le temps, et ne s'arrête point, doit mettre à la longue, entre les formes qui ont existé très anciennement, celles qui existent aujourd'hui, celles qui existeront dans les siècles reculés, la différence la plus grande. Et le nil sub solé novum n'est qu'un préjugé fondé sur la faiblesse de nos organes, l'imperfection de nos instruments et la brièveté de notre vie. On dit en morale « quod capita tot sed sus ». C'est le contraire qui est vrai. Rien n'est si commun que des têtes, et si rare que des avis. On dit en littérature, il ne faut point disputer des goûts. Si l'on entend qu'il ne faut point disputer à un homme que tel est son goût, c'est une puérilité. Si l'on entend qu'il n'y a ni bon ni mauvais dans le goût, c'est une fausseté. Le philosophe examinera sévèrement tous ces axiomes de la sagesse populaire. 58. Question. Il n'y a qu'une manière possible d'être homogène. Il y a une infinité de manières différentes possibles d'être hétérogène. Il me paraît aussi impossible que tous les êtres de la nature aient été produits avec une matière parfaitement homogène qu'il le serait de les représenter avec une seule et même couleur. Je crois même entrevoir que la diversité des phénomènes ne peut être le résultat d'une hétérogénéité quelconque. J'appellerai donc éléments les différentes matières hétérogènes nécessaires pour la production générale des phénomènes de la nature. Et j'appellerai la nature le résultat général actuel ou les résultats généraux successifs de la combinaison des éléments. Les éléments doivent avoir des différences essentielles, sans quoi tout aurait pu naître de l'homogénéité puisque tout y pourrait retourner. Il est, il a été ou il sera une combinaison naturelle ou une combinaison artificielle dans laquelle un élément est, a été ou sera porté à sa plus grande division possible. La molécule d'un élément, dans cet état de division dernière, est indivisible d'une indivisibilité absolue, puisqu'une division ultérieure de cette molécule, étant hors des lois de la nature et au-delà des forces de l'art, n'est plus qu'intelligible. L'état de division dernière possible dans la nature, ou par l'art, n'étant pas le même, selon toute apparence, pour des matières essentiellement hétérogènes, il s'ensuit qu'il y a des molécules essentiellement différentes en masse et toutefois absolument indivisibles en elles-mêmes. Combien y a-t-il de matières absolument hétérogènes ou élémentaires? Nous l'ignorons. Quelles sont les différences essentielles des matières que nous regardons comme absolument hétérogènes ou élémentaires? Nous l'ignorons. Jusqu'où la division d'une matière élémentaire est-elle portée? Soit dans les productions de l'art, soit dans les ouvrages de la nature. Nous l'ignorons. Etc., etc., etc. J'ai joint les combinaisons de l'art à celles de la nature. Parce que, entre une infinité de faits que nous ignorons, et que nous ne saurons jamais, il en est un qui nous est encore caché. Savoir si la division d'une matière élémentaire n'a point été, n'est point, ou ne sera pas portée plus loin dans quelque opération de l'art qu'elle ne l'a été, ne l'est et ne le sera dans aucune combinaison de la nature abandonnée à elle-même. Et l'on va voir, par la première des questions suivantes, pourquoi j'ai fait entrer dans quelques-unes de mes propositions les notions du passé, du présent et de l'avenir, et pourquoi j'ai inséré l'idée de succession dans la définition que j'ai donnée de la nature. 1. Si les phénomènes ne sont pas enchaînés les uns aux autres, il n'y a point de philosophie. Les phénomènes seraient tous enchaînés, que l'état de chacun d'eux pourrait être sans permanence. Mais si l'état des êtres est dans une vicissitude perpétuelle, si la nature est encore à l'ouvrage, malgré la chaîne qui lie les phénomènes, il n'y a point de philosophie. Toute notre science naturelle devient aussi transitoire que les mots. Ce que nous prenons pour l'histoire de la nature n'est que l'histoire très incomplète d'un instant. Je demande donc si les métaux ont toujours été et seront toujours tels qu'ils sont. Si les plantes ont toujours été et seront toujours telles qu'elles sont. Si les animaux ont toujours été et seront toujours tels qu'ils sont, etc. Après avoir médité profondément sur certains phénomènes, un doute qu'on vous pardonnerait peut-être aux sceptiques, ce n'est pas que le monde ait été créé, mais qu'il soit tel qu'il a été et qu'il sera. 2. De même que dans les règnes animal et végétal, un individu commence, pour ainsi dire, sa croix, dure, dépérit et passe, n'en serait-il pas de même des espèces entières? Si la foi ne nous apprenait que les animaux sont sortis des mains du Créateur tels que nous les voyons, et s'il était permis d'avoir la moindre incertitude sur leur commencement et sur leur fin, le philosophe abandonné à ses conjectures ne pourrait-il pas soupçonner que l'animalité avait de toute éternité ses éléments particuliers, épars et confondus dans la masse de la matière. Il est arrivé à ces éléments de se réunir parce qu'il était possible que cela se fît, que l'embryon formé de ces éléments a passé par une infinité d'organisations et de développements qu'il a eu par succession du mouvement, de la sensation, des idées, de la pensée, de la réflexion, de la conscience, des sentiments, des passions, des signes, des gestes, des sons articulés, une langue, des lois, des sciences et des arts. Il s'est écoulé des millions d'années entre chacun de ces développements. Il a peut-être encore d'autres développements à subir et d'autres accroissements à prendre qui nous sont inconnus. Il a eu ou qu'il aura un état stationnaire. Il s'éloigne ou qu'il s'éloignera de cet état par un dépérissement éternel pendant lequel ses facultés sortiront de lui comme elles y étaient entrées. Il disparaîtra pour jamais de la nature, ou plutôt qu'il continuera d'y exister, mais sous une forme et avec des facultés tout autres que celles qu'on lui remarque dans cet instant de la durée. La religion nous épargne bien des écarts et bien des travaux. Si elle ne nous eût point éclairé sur l'origine du monde et sur le système universel des êtres, combien d'hypothèses différentes que nous aurions été tentés de prendre pour le secret de la nature. Ces hypothèses, étant toutes également fausses, nous auraient paru toutes à peu près également vraisemblables. La question « pourquoi il existe quelque chose » est la plus embarrassante que la philosophie puisse se proposer. Et il n'y a que la révélation qui y réponde. 3. Si l'on jette les yeux sur les animaux et sur la terre brute qu'ils foulent aux pieds, sur les molécules organiques et sur le fluide dans lequel elles se meuvent, sur les insectes microscopiques et sur la matière qui les produit et qui les environne, il est évident que la matière en général est divisée en matière morte et en matière vivante. Mais comment se peut-il faire que la matière ne soit pas une ? Ou toute vivante ou toute morte. La matière vivante est-elle toujours vivante? Et la matière morte est-elle toujours et réellement morte? La matière vivante ne meurt-elle point? La matière morte ne commence-t-elle jamais à vivre? 4. Y a-t-il quelque autre différence assignable entre la matière morte et la matière vivante que l'organisation et que la spontanéité réelle ou apparente du mouvement? 5. Ce qu'on appelle matière vivante, ne serait-ce pas seulement une matière qui se meut par elle-même? Et ce qu'on appelle une matière morte, ne serait-ce pas une matière mobile par une autre matière? 6. Si la matière vivante est une matière qui se meut par elle-même, comment peut-elle cesser de se mouvoir sans mourir? 7. S'il y a une matière vivante et une matière morte par elle-même, ces deux principes suffisent-ils pour la production générale de toutes les formes et de tous les phénomènes? 8. En géométrie, une quantité réelle jointe à une quantité imaginaire donne un tout imaginaire. Dans la nature, si une molécule de matière vivante s'applique à une molécule de matière morte, le tout sera-t-il vivant ou sera-t-il mort? 9. Si l'agrégat peut être ou vivant ou mort, quand et pourquoi sera-t-il vivant? Quand et pourquoi sera-t-il mort? 10. Mort ou vivant, il existe sous une forme. Sous quelque forme qu'il existe, quel en est le principe? 11. Les moules sont-ils principes des formes? Qu'est-ce qu'un moule? Est-ce un être réel et préexistant? Ou n'est-ce que les limites intelligibles de l'énergie d'une molécule vivante unies à de la matière morte ou vivante? Limites déterminées par le rapport de l'énergie en tous sens, aux résistances en tous sens. Si c'est un être réel et préexistant, comment s'est-il formé? 12. L'énergie d'une molécule vivante varie-t-elle par elle-même ou ne varie-t-elle que selon la quantité, la qualité, les formes de la matière morte ou vivante à laquelle elle s'unit? 13. Y a-t-il des matières vivantes spécifiquement différentes de matières vivantes ou toute matière vivante est-elle essentiellement une et propre à tout? J'en demande autant des matières mortes. 14. La matière vivante se combine-t-elle avec de la matière vivante? Comment se fait cette combinaison? Quel en est le résultat? J'en demande autant de la matière morte. 15. Si l'on pouvait supposer toute la matière vivante ou toute la matière morte, y aurait-il jamais autre chose que de la matière morte ou que de la matière vivante? Ou les molécules vivantes ne pourraient-elles pas reprendre la vie après l'avoir perdue pour la reperdre encore et ainsi de suite à l'infini? Quand je tourne mes regards sur les travaux des hommes et que je vois des villes bâties de toutes parts, tous les éléments employés, des langues fixées, des peuples policés, des ports construits, les mers traversées, la terre et les cieux mesurés, le monde me paraît bien vieux. Lorsque je trouve les hommes incertains sur les premiers principes de la médecine et de l'agriculture, sur les propriétés des substances les plus communes, sur la connaissance des maladies dont ils sont affligés, sur la taille des arbres, sur la forme de la charrue. La terre ne me paraît habitée que d'hier. Et si les hommes étaient sages, ils se livreraient enfin à des recherches relatives à leur bien-être et ne répondraient à mes questions futiles que dans 1000 ans au plus tôt. Ou peut-être même, considérant sans cesse le peu d'étendue qu'ils occupent dans l'espace et dans la durée, ils ne daigneraient jamais y répondre. Prière. J'ai commencé par la nature, qu'ils ont appelé ton ouvrage. Je finirai par toi dont le nom sur la terre est Dieu. Ô Dieu, je ne sais si tu es. Mais je penserai comme si tu voyais dans mon âme. J'agirai comme si j'étais devant toi. Si j'ai péché quelquefois contre ma raison ou la loi, j'en serai moins satisfait de ma vie passée. Mais je n'en serai pas moins tranquille sur mon sort à venir, parce que tu as oublié ma faute aussitôt que je l'ai reconnue. Je ne te demande rien dans ce monde, car le cours des choses est nécessaire par lui-même, si tu n'es pas, ou par ton décret, si tu es. J'espère à tes récompenses dans l'autre monde, s'il y en a un, quoique tout ce que je fais dans celui-ci, je le fasse pour moi. Si je suis le bien, c'est sans effort. Si je laisse le mal, c'est sans penser à toi. Je ne pourrais m'empêcher d'aimer la vérité et la vertu, et de haïr le mensonge et le vice quand je saurai que tu n'es pas, ou quand je croirai que tu es et que tu t'en offenses. Me voilà, tel que je suis, portion nécessairement organisée d'une matière éternelle et nécessaire, ou peut-être ta créature. Mais si je suis bienfaisant et bon, qu'importe à mes semblables, que ce soit par un bonheur d'organisation, par des actes libres de ma volonté ou par le secours de ta grâce. Et toutes les fois, jeune homme, que tu réciteras ce symbole de notre philosophie, tu liras aussi ce qui suit. Il n'appartient qu'à l'honnête homme d'être athée. Le méchant qui nie l'existence de Dieu est juge et parti. C'est un homme qui craint et qui sait qu'il doit craindre un vengeur à venir des mauvaises actions qu'il a commises. L'homme de bien, au contraire, qui aimerait tant à se flatter d'un rémunérateur futur de ses vertus, lutte contre son propre intérêt. L'un plaide pour lui-même, l'autre plaide contre lui. Le premier ne peut jamais être certain du vrai motif qui détermine sa façon de philosopher. L'autre ne peut douter qu'il ne soit entraîné par l'évidence dans une opinion si opposée aux espérances les plus douces et les plus flatteuses dont il pourrait se bercer. Puisque Dieu a permis, ou que le mécanisme universel qu'on appelle destin a voulu, que nous fussions exposés pendant la vie à toutes sortes d'événements, si tu es homme sage et meilleur père que moi, tu persuaderas de bonne heure à ton fils qu'il est le maître de son existence, afin qu'il ne se plaigne pas de toi, qu'il la lui a donnée. Observation sur un endroit de la page 32. Je t'ai dit, jeune homme, que les qualités telles que l'attraction se propageaient à l'infini lorsque rien ne limitait la sphère de leur action. On l'objectera que j'aurais même pu dire qu'elles se propageaient uniformément. On ajoutera peut-être qu'on ne conçoit guère comment une qualité s'exerce à distance, sans aucun intermède. Mais qu'il n'y a point d'absurdité et qu'il n'y en eut jamais, ou que c'en est une de prétendre qu'elle s'exerce dans le vide diversement à différentes distances, qu'alors on n'aperçoit rien, soit au-dedans, soit au-dehors d'une portion de matière, qui soit capable de faire varier son action, que Descartes, Newton, les philosophes anciens et modernes ont tous supposé qu'un corps, animé dans le vide de la quantité de mouvement la plus petite, irait à l'infini, uniformément, en ligne droite, que la distance n'est donc par elle-même ni un obstacle ni un véhicule, que toute qualité dont l'action varie selon une raison quelconque, inverse ou directe de la distance, ramène nécessairement au plein et à la philosophie corpusculaire, et que la supposition du vide et celle de la variabilité de l'action d'une cause sont deux suppositions contradictoires, si l'on te propose ces difficultés, je te conseille d'en aller chercher la réponse chez quelques newtoniens, car je t'avoue que j'ignore comment on les résout.